Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Alors, Mathieu, donc, Marie-Pierre Morin qui s'est présentée devant le tribunal de l'Inquisition dimanche pour plaider son cas devant le pape du plateau. Et là, ils sont tous en train de délibérer pour savoir si on lui donne une deuxième chance, si elle peut réintégrer le troupeau ou alors si on l'envoie au bûcher. Donc, tout ça pour toi est la preuve qu'on a peut-être sorti les Québécois de la religion, mais on n'a pas sorti la religion des Québécois.
Ben, c'est assez fascinant, en fait. C'est-à-dire, sur le contenu de l'affaire en elle-même, j'ai pas d'opinion particulière. C'est-à-dire, ce qui arrive à Marie-Pierre Morin, ainsi de suite. Je pense que c'est, que les tribunaux s'en emparent, qu'elles règlent ces questions avec les gens. Bon, je prétends pas avoir de compétences particulières là-dessus. Mais sur la manière dont c'est traité culturellement, dont c'est traité médiatiquement, dont c'est traité symboliquement, c'est fascinant à quel point ça parle beaucoup de ce que sont encore les Québécois alors qu'ils ne croient plus l'être. C'est-à-dire, bon, Marie-Pierre Morin, c'est ce que l'on sait. Les faits remontent à la surface samedi, si je ne me trompe pas. Convoqué au dimanche soir dans une société qui conserve le besoin d'un rituel dominical, manifestement. Qui conserve le besoin d'un rituel où chaque semaine, on fait le bilan de ce que nous sommes, le bilan d'où nous en sommes, le bilan de ce qui est bien, de ce qui est mal, le bilan des controverses qu'il faut trancher. Et la question était de savoir quelle pose elle allait adopter. Et moi, ce qui m'a fasciné, donc, c'était, parce que personne ne croit. Qu'elle soit sincère, c'est possible ou non, la question n'est pas là. Mais il y avait à travers tout ça un rituel qui était fascinant. Mmh. Et c'était le rituel, donc, de la contrition de A à Z. Elle était là, prenant la pose de ce qu'on appelait autrefois le pénitent. Elle était dans la figure de la pénitente, et à partir de là, à la recherche de l'absolution, à la recherche du bon Dieu, mais avec la confession, à la recherche du pardon, tout en sachant qu'elle devait se faire pardonner par deux étages de la société. D'un côté, le milieu artistique, le milieu culturel, qui est assez divisé à son sujet, et la population qui, dans son ensemble, semble lui demeurer fidèle. Et ce qui m'a frappé, moi, donc, c'est, un, la pose de la contrition, les excuses, une forme de scénarisation du repentir, et ensuite, plus encore, c'était la discussion qui a suivi. Ça, c'était fascinant. C'est-à-dire la discussion des théologiens médiatiques et pour savoir est-ce que la confession était sincère ou n'était-elle que théâtralisée. Et si elle était sincère, est-ce que la pénitence était à la hauteur du crime commis? Hein, parce que pour avoir droit au pardon, pour éviter les flammes éternelles de l'enfer, pour éviter de poursuivre dans le péché, eh ben il faut être capable d'avoir une pénitence à la hauteur du crime commis. Puis troisième élément qui était fascinant à travers tout cela, mais ça nous en dit beaucoup par ailleurs sur une société qui se croit relativiste. Je crois que ce n'est plus le cas. Il y a tout un nouvel univers moral, un nouvel univers de péché, un nouvel univers d'interdit qui s'est constitué et qui se révèle à travers un événement comme ça. Alors moi je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je suis fasciné de voir comment il y a toutes les étapes en fait d'un processus de repentir, de rituel d'expiation, de rituel de pénitence qui n'est pas sans lien avec un vieux passé canadien-français qui remonte à la surface quand le Québec, en communauté, doit trancher sur le sort d'une des siennes qui a péché.
Tout à fait. Et je vois aujourd'hui dans le Devoir, là, il y a deux filles dans le Devoir qui ont parti à un nouveau mouvement. J'ai changé, hashtag moi aussi. En tout cas, bref. Et qui disent que c'est traumatisant pour les victimes de voir une agresseur tel que Marie-Pierre Morin soudainement essayer de s'excuser en onde alors que les victimes ont subi un traumatisme épouvantable et on les laisse pas parler, tout ça. Et là, je lis ça et je me dis, attendez une minute, là. Je veux dire, à un moment donné, à pas violer, à ce que je sache, là, c'est des grosses bêtises, c'est des niaiseries. Effectivement, assez mal comportée, elle était sous l'effet de l'alcool, avait des problèmes. Mais là, tu dis, attends une minute, là, vous parlez de traumatisme et tout ça. Quelqu'un qui fait une joke niaiseuse ou quoi, je sais pas.
C'est la possibilité du pardon qui apparaît soudainement. Pour demeurer dans la métaphore religieuse, nous sommes dans une société qui croit à la réhabilitation, du moins le dit-on. On est dans une société qui veut donner une deuxième chance, dans une société qui, même devant le criminel le pire, se dit dans quelle mesure peut-il avoir une deuxième chance, dans quelle mesure peut-on le réhabiliter. Mais existe-t-il encore en ce monde des péchés capitaux, à ce point capitaux qu'ils en deviennent impardonnables? Existe-t-il des péchés sans repentir? Existe-t-il des actes qui sont à ce point infamants que malgré le repentir, malgré les excuses, malgré la contrition, malgré le travail sur soi, il ne sera pas possible d'une manière ou de l'autre d'aller au-delà de ces de ce crime qui serait indélébile, hein, qui serait prescriptible en quelque sorte. Bon, alors moi je vois cela et puis je me dis encore une fois, eh bien nous sommes dans l'univers de la morale, dans l'univers du péché, dans l'univers religieux et encore puis ensuite pour ce qui est de la question du trauma, ça c'est assez fascinant, c'est-à-dire moi je ne conteste pas ce que j'en sais, ce qu'elle a fait me semble tout à fait condamnable. Pour ce que j'en sais, ce qu'elle a fait, elle a effectivement besoin de faire tout son sans moquerie, son chemin de repentir. Elle a besoin effectivement de revenir sur elle-même parce qu'elle avait un comportement tyrannique, ivre de pouvoir, ivre de beauté, ivre probablement tout simplement. Mais une fois que c'est dit, est-ce qu'on est dans une société qui institutionnalise le droit de ne pas être traumatisé d'une manière ou de l'autre par la présence dans l'espace public de quelqu'un qu'on n'apprécie pas? Parce que si ça s'applique sur Marie-Pierre Morin, eh bien la prochaine étape, c'est que la liste des gens qui nous traumatisent d'une manière ou de l'autre peut rapidement s'étendre. On va arriver bientôt avec des gens qui vont dire « ce propos-là, sans lien avec Marie-Pierre Morin cette fois-là, là, ce propos-là, il est tellement traumatisant pour moi, je peux pas l'entendre, je ne veux plus qu'on entende cette personne-là ». Et les médias sociaux donnent aujourd'hui à la foule lyncheuse un pouvoir immense qui est celui de se constituer pour désigner à la vindicte publique celui qui doit y passer. Et ça, je pense que quel que soit le sujet, que ce soit Marie-Pierre Morin, que ce soit Blanc, on pourrait faire toute la liste des controverses qu'on a connues, il faut se méfier de ce pouvoir des réseaux qui décide, qui réactive le pouvoir de la foule lyncheuse. Soit dit en passant, ça s'est appliqué aussi sur Safia Nolin. Sur Safia Nolin, quand des gens se jettent sur elle pour l'humilier, pour l'insulter, pour la vomir, et ainsi de suite sur les réseaux sociaux en meute, pas pour la critiquer, mais pour la vomir, eh bien, ça aussi, c'est absolument condamnable. Donc, on est dans cette espèce de logique où on voit aujourd'hui, les médias sociaux, au début, c'était une blague, c'était amusant. On voit aujourd'hui leur pouvoir politique potentiellement tyrannique. Il suffit de quelques critiques agglomérées, de quelques critiques fusionnées pour d'un coup faire un mouvement où on en appelle au lynchage des uns et des autres. Je pense qu'au-delà de Mme Morin, eh bien, il serait tout à fait légitime de se questionner sur le pouvoir politique qu'on accorde aux réseaux sociaux.
Et si au moins ils avaient l'indignation égale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le protègent, il y a des gens qui le condamnent. Ça dépend si tu es avec eux ou si tu fais pas partie de la gang. Je reviens toujours là-dessus. Il y a eu d'autres artistes soudainement qui ont eu droit à l'indulgence de ce milieu-là. Pourquoi? Parce que c'était un des leurs. Alors qu'elle, elle arrive d'une émission de télé-réalité. Elle était connue par une émission de télé-réalité. Elle arrive comme ça. Elle fait pas partie de cette gang-là. Cette gang-là, elle avait pas encore adoubé. Et là, elle, on la condamne.
Il y a, je pense que le deux poids, deux mesures est structurel du débat public aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire ça, je pense qu'il traverse à peu près tous les débats. J'ajouterais une chose là-dedans. Moi, je crois que je ne suis pas du tout en ces matières quelqu'un qui croit à la noblesse absolue du cœur humain ou à sa perversion absolue. Je pense qu'il y a un mélange joyeux et triste mélange de tout. Il est possible que dans cette affaire Morin, il y a un mélange à la fois de désir de justice tout à fait légitime et d'esprit de vengeance et de jalousie, dis-je. Oui. Il est possible qu'il y ait dans cette affaire-là une colère tout à fait honorable et correcte contre des gestes qui ne doivent plus se reproduire, et au même moment, une vengeance contre quelqu'un dont l'éclat pourrait quelquefois susciter quelques jalousies et quelques colères et quelques ressentiments. Ne nous interdisons pas de croire qu'en cette matière, dans l'aspect public, là, je parle pas des gestes en eux-mêmes, mais la manière dont c'est traité culturellement, dont c'est traité médiatiquement, dont c'est traité symboliquement, ne nous interdisons pas de penser qu'il y a à travers tout cela des sentiments mélangés qui ne sont pas tous honorables. Ce qui ne change rien au fait que les gestes de Marie-Pierre Morin sont condamnables, elle le dit elle-même, tous en sont conscients, elle devait rompre avec une certaine habitude de vie. Il n'y a pas de doute là-dessus, avec une manière d'abuser de son pouvoir, sans doute le moindre doute. Mais ensuite, culturellement, la manière dont on traite ça, ça en dit beaucoup sur nos progressistes, ça en dit beaucoup sur nos biais inconscients.
Tout à fait. Écoute, en terminant, je veux revenir sur les réactions à ton livre. Là, on a parlé hier, je crois, de la critique de Chantal Guy dans la presse. Mais j'ai lu ce matin, avant de venir en ondes, et je n'aimerais pas cette personne-là, mais j'ai lu un commentaire assez désobligeant à ton endroit de quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'aime bien, qui est un collaborateur, d'ailleurs, à l'émission. Et cette personne a dit que t'exagères le danger représenté par les woke, que vraiment, tu dérapes, et etc. Et c'est très drôle parce que tu t'inventes rien dans ton livre. Si on prenait un à un chaque exemple, cette personne-là qui a écrit ce commentaire-là dirait oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai, ça s'est passé. Ça c'est vrai, ça s'est passé. Mais après ça, on dit que t'exagères, ben, t'exagères pas. Veux dire, c'est le mouvement lui-même qui exagère lui-même, qui est devenu hystérique, le mouvement woke. Je comprends pas ça.
Moi, si j'exagère, qu'on me dise en quoi, qu'on me dise pourquoi, qu'on me donne des exemples. Pour le reste, je fais tout sauf, je fais tout sauf collectionner des anecdotes. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont des faits culturels, des événements qui ont une portée institutionnelle, qui sont normalisés par des discours institutionnels, des discours administratifs, des discours universitaires, des cadres législatifs, des cadres administratifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique des institutions, c'est les dynamiques idéologiques. C'est pas une série de faits divers, comme on pouvait le suggérer hier dans la presse, mais à la personne, le commentaire auquel tu fais référence, je crois qu'il y a tout simplement le besoin pour quelques-uns, quelquefois, de faire une forme de signalement moral, c'est-à-dire devant quelqu'un qui porte la mauvaise réputation en tel ou tel milieu, mieux vaut prendre une certaine distance avec lui en disant « Oh là là, il exagère! Oh là là, ce qu'il exagère! » Alors on pose la question « J'exagère en quoi, mon ami? » Et là, j'ai pas le temps de répondre. Mais d'accord, prenez le temps. Et lorsqu'il revient, finalement, ce qu'il nomme exagération n'est finalement au mieux qu'un désaccord. Ben, les désaccords, c'est tout à fait permis, alors on va en parler, mais c'était plus simple de présenter l'autre comme quelqu'un qui exagère. Ça nous épargne quelquefois d'avoir à répondre à ses arguments.
Et toi, ton livre, c'est des analyses, et Michel Onfray vient de sortir, il sort à peu près 15 livres par année, ça n'a pas d'allure, mais il vient de sortir un livre où ce ne sont qu'une nomenclature d'anecdotes, d'interdictions, de bannissements, de cancel culture, puis tout ça. C'est un livre de quoi? 250 pages, 300 pages? Écoute, il y en a des interdictions, des bannissements, puis tout ça. Puis après ça, quand on dénonce ça, on dit qu'on exagère.
Je pense que c'est la position facile de ceux qui partagent notre exaspération, disons ça comme ça, et surtout nos analyses, mais qui veulent demeurer dans le cercle de la respectabilité. Parce que c'est très important, par exemple, quand on est prof au collégial, par exemple, ou quand on travaille pour les certains médias publics, eh bien, il faut conserver sa respectabilité, il faut préserver sa bonne réputation, et une bonne manière de le faire, c'est de dire, lorsqu'on est en accord avec quelqu'un qui dit quelque chose de juste, mais cette personne a mauvaise réputation, eh bien, il faut rajouter en disant, vous exagérez, vous manquez de modération, vous manquez de ci, j'ai fait récemment un entretien avec Catherine Perrin à la radio publique, l'entretien était très intéressant, elle me contredisait, mais d'intelligente manière, de fine manière, c'est intéressant, puis à la fin, une dernière question sur le mode repoussoir, pour simplement marquer la distance, pour marquer, soudainement, il fallait marquer de manière ostentatoire la distance, faire un geste barrière avec l'intellectuel Oni. Donc là, à la fin, c'était plutôt amusant parce que c'était tellement visible ce désir à la dernière seconde de porter une combinaison de protection hygiénique pour éviter d'être contaminé par le turbulent invité. Bon, mais ça fait partie des rituels. J'en viens presque à m'amuser devant cela. J'y vois la nature humaine telle qu'elle est. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça implique les femmes aussi.
C'est très bon. À demain. Merci beaucoup, Mathieu.
Salut. Bye bye.
Salut. Alors, un peu plus, tu n'avais pas de chaud, mais là, non, faut que tu travailles.
J'ai ramené l'électricité.
L'électricité,
comme dans l'évier. Le lévier, comme
le
on disait.
Le lévier.
Oui. Ça a l'air que je dis ça encore. Je me suis fait reprendre par ma fille de 11 ans. Papa, tu dis le lévier? Non. Oui, tu dis le lévier? Non. Non, ben non, ça se peut pas, je le sais. Non, c'est comme ancré, tu sais, des si j'aurais.
De quoi tu nous parles?
Tantôt, on va parler de baseball à 10h30. Il faut que la vie reprenne. Là. Est-ce que les petits pits, moi, j'aime ça, le baseball. Est-ce que là, il y a des inscriptions qui commencent? Est-ce que le baseball recommence? C'est quoi les consignes? Va-t-il falloir jouer avec un masque? Tu sais, on nous dit un petit sujet estival pour sortir de ce qu'on vit. À 11h, on va parler avec un chercheur sur la COVID longue. Qu'est-ce qu'on comprend de la COVID longue? Tu as vu l'article aujourd'hui?
Ben oui.
Il y a des gens qui reçoivent un vaccin, puis là, ils sont requinqués. Ma mère m'a dit ça à 90 ans. Elle a eu son vaccin, puis elle dit, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça me fait du bien.
Ah, c'est peut-être le Pfizer, mais ils sont trompés, c'est du Viagra qu'ils ont donné.
Regardez un petit monsieur dans la tour. En tout cas. Puis à midi, on va revenir sur les restaurants. Là, François Legault dit, on va peut-être aller au hockey. Attends une minute, moi, avant d'aller au hockey, je veux aller au restaurant.
Ah ouais.
Parce que comme fonction sociale.
Avoue, toi qui es un homme dur, au cœur sec.
Une brique. Oui.
Avoue, quand tu vas rentrer au restaurant, tu vas avoir l'œil un peu humide.
Je vais m'effondrer.
Vraiment.
Ouais. Non, on va vaciller un peu. On va sentir les odeurs, les parfums venant de la cuisine. Ça dépend quel restaurant tu fréquentes. Mais bref, on va faire ça aujourd'hui. Et c'est gratis.
Ben oui.
C'est gratis, c'est gratis.
Le buffet Quirin, il est pas fermé?
Ça, c'est une affaire.
Il y a un buffet qui est fermé là, récemment à Laval, je pense.
Ouais.
J'ai vu. Là, que...
Ouais, ouais. Il y a les incontinents.
Mon père aimait ça, les buffets. Lui.
Oui. À une époque, c'était le fun. Mes parents m'amenaient chez sur le boulevard des Carrés. Là. Il y avait un buffet chinois.
Beniana?
Non.
À l'hôtel, Beniana.
Ruby Fouze.
Ruby Fouze, ben, c'était à l'hôtel.
C'était l'hôtel, c'est ça. Ben, mais Ruby Fouze, là, c'était le festival du buffet. Puis là, entre deux, trois assiettes, ils se laquaient la ceinture. Là, c'était brrr, hein. Là, ils prenaient un Pepsi avec mon oncle Gilbert, ma tante Carmen. C'est comme la soirée, là, on se défonce l'estomac.
Merci à mon équipe. Merci à l'équipe à la recherche, Carl Marchand, Maude Boutet. Puis je veux remercier particulièrement les trois personnes qui se sont beaucoup démenées ce matin parce qu'on courait dans tous les sens à cause de la panne d'électricité.
Madame Brochu d'Hydro-Québec.
Achille Moinet ici à la console. Luc Fortin, Dominique Plamondon. Merci à ces trois personnes-là. Finalement, l'électricité est revenue, ce qui nous permet d'écouter Benoît.